Bonsoir, bienvenue à l'Opéra Comique et merci d'avoir bravé les intempéries pour venir voir un opéra dont le titre, il y a quelques mois en tout cas, nous paraissait un peu énigmatique à toutes et à tous et paraissait résonner de façon un peu curieuse avec l'actualité sanitaire. Et puis on s'est habitué à cette nymphe qui s'appelle Coronis. Et surtout, on s'est réjoui parce qu'on était coproducteur de ce spectacle depuis 2018. Le spectacle a été créé en 2019 au Théâtre de Caen. C'est Patrick Folle, le directeur du Théâtre de Caen, qui est à l'initiative de cette production. Et on s'est réjoui que, eh bien, les années passant, on trouve enfin l'opportunité de le montrer, puisqu'il a déjà un peu tourné. Alors, Patrick Folle souhaitait... faire renaître le théâtre lyrique baroque espagnol, ce qui était un projet très ambitieux parce qu'il n'est pas du tout connu en France, mais il n'est pas très connu non plus en Espagne. Il est peu joué, voire pas joué du tout. Les œuvres baroques espagnoles. Alors, en Espagne, le répertoire baroque est l'objet d'un vif intérêt de la part des musicologues, des historiens, mais pour le moment, c'est plutôt un objet d'étude et d'édition que... des œuvres qui donnent lieu à des productions scéniques. Et Coronis, que vous allez découvrir ce soir, n'a jamais été jouée en Espagne depuis le début du XVIIIe siècle. Oui, et à l'époque actuelle, il n'y a pas en Espagne de production scénique aussi ambitieuse sur un titre baroque que notre Coronis. Donc on est très heureux de participer, on était très heureux dès le début d'entrer dans ce très beau projet qui a été confié à Vincent Dumestre, qui connaît très bien les répertoires baroques méditerranéens et qui, lui, a identifié Sébastien Durón et Coronis comme étant peut-être un titre, un objet approprié à notre projet. Et puis Omar Porras, le metteur en scène, est venu ensuite et bénéficiant de son patrimoine hispanique, il a pu prendre en main cette histoire. C'est un opéra baroque qui est chanté en espagnol, mais vous allez le voir, il est un curieux mélange, il résulte d'un curieux mélange de traditions espagnoles qui s'expriment pendant tout le siècle d'or et puis d'un renouveau de l'art lyrique en Espagne qui est dû à l'intérêt des Espagnols et en particulier de Sébastien Durón pour ce qui se passait en Italie. Alors, c'est un ouvrage qui a été créé au début du XVIIIe siècle. On est à la fin du siècle d'or. Et on est à la fin d'une grande période très faste pour les arts scéniques et les arts musicaux. L'opéra existe à la cour d'Espagne depuis plus d'un demi-siècle à ce moment-là. Et en marge des opéras, qui sont des entreprises monumentales, enfin très impressionnantes, avec des ressources scénographiques formidables, puisqu'on fait venir d'Italie des scénographes, en marge des opéras, s'est développé un deuxième genre, plus léger en termes d'effectifs, en termes de proportions, plus facile à monter. Et ce deuxième genre s'appelle la zarzuela. Ce deuxième genre s'appelle la zarzuela parce que ses premiers spectacles, donc de dimension un peu plus modeste et un peu moins coûteuse, ont été créés dans le palais de la zarzuela, qui est le palais d'été, le palais des vacances, si vous voulez, de la famille royale, aux environs de Madrid, dans un domaine environné de ronces. C'est donc, on peut dire que c'est le palais de la ronceraie. Et ces spectacles plus légers, destinés à un palais où la cour séjourne moins souvent, prennent donc le nom du palais dans lequel ils sont créés. Donc, nous avons affaire ici à une zarzuela, mais une zarzuela baroque, pas une zarzuela comme on a tendance à les connaître, celle du XIXe siècle, qui ressemble à des opéras comiques. Cette zarzuela baroque, elle pourrait, comme d'autres de sa famille, créée au XVIIe siècle, alterner le parler et le chanter, parce que c'est le propre des premières zarzuelas. Mais il se trouve qu'elle est un petit peu particulière, elle est intégralement chantée. Donc c'est une zarzuela qui tend vers l'opéra, si vous voulez, du simple point de vue de l'écriture musicale. Alors, on est, je le disais, à la fin du siècle d'or, on est à la fin d'une très très belle période pour les arts de la scène en Espagne, où de grands auteurs ont compté, comme Lope de Vega ou Calderón. Ils sont tous les deux des auteurs très importants dans la construction du genre lyrique, des genres lyriques en Espagne, en particulier Calderón, qui a écrit plusieurs livrets de zarzuela. Et si je dis qu'on est à la fin d'une époque, c'est qu'on clôt la grande époque des Habsbourg, qui ont régné en Espagne et qui ont fait de l'Espagne une puissance culturelle considérable. Et il faut avoir en tête que l'Espagne au XVIIe siècle, ce n'est pas que l'Espagne d'aujourd'hui, c'est aussi le Portugal, c'est aussi la moitié sud de l'Italie, c'est encore les Pays-Bas et c'est bien évidemment de nombreux territoires en Amérique. Donc c'est un empire gigantesque, très très riche. Et cela a bénéficié aux spectacles qui se sont développés à Madrid et dans toutes les terres d'Espagne. Et puis, des échanges, bien entendu, très fréquents entre tous ces territoires, des échanges culturels qui ont contribué à l'éclosion de formes magnifiques. Et on est à la fin de cette période parce qu'en 1700 meurt le dernier souverain espagnol Habsbourg, Charles II, qui est un enfant dégénéré, qui n'a jamais véritablement régné. C'est sa mère qui a assuré la régence. C'est le fruit de tellement de mariages consanguins que il souffre de multiples handicaps et qu'à sa mort en 1700 se pose le problème de sa succession. Or, Sébastien Durón, à ce moment-là et depuis plusieurs années, un maître de musique important à la cour d'Espagne. Il bénéficie de circonstances formidables pour créer ses ouvrages, pour composer de la musique sacrée, de la musique savante, de la musique scénique. Et à ce moment-là, son destin va basculer parce qu'à la suite du décès de Charles II, un nouveau monarque va monter sur le trône non sans peine, puisqu'il y a un peu une concertation européenne entre les grandes puissances et plusieurs candidats au trône. Et celui qui l'emporte, c'est Louis XIV, en l'occurrence le petit-fils de Louis XIV, qui va devenir Philippe V d'Espagne et qui va donc entamer une nouvelle dynastie, dont aujourd'hui encore l'actuel roi d'Espagne est l'héritier, la dynastie Bourbon. Et donc ça va fragiliser la carrière de Sébastien Durón qui, après quelques années et en pleine guerre de succession d'Espagne, parce que cette arrivée d'un Bourbon sur le trône d'Espagne va déclencher une série de conflits, donc, qu'on appelle la guerre de succession d'Espagne, qui dure une douzaine d'années. Après quelques années, Sébastien Durón va suivre dans l'exil la veuve du roi mort en 1700 et il va finir sa vie en France, dans les Pyrénées. Alors, on a avec Coronis un ouvrage qui a été créé à la toute fin de sa carrière officielle. On ne sait pas très bien, mais on pense que ça a été créé à l'Alcazar à Madrid, probablement vers 1706, surtout si on considère le sujet qui est choisi par les librettistes. Il y a probablement deux librettistes qui ont travaillé à ce livret. Le sujet est tiré des Métamorphoses d'Ovide. Et dans les Métamorphoses, il y a deux Coronis. Il y en a une qui, pour échapper à Neptune, à l'entreprise amoureuse de Neptune, est sauvée par Minerve en étant métamorphosée en corneille, Coronis corneille, et l'autre Coronis, toujours dans les Métamorphoses d'Ovide et d'ailleurs dans le même texte que j'ai mis dans le programme, l'autre Coronis devient l'amante d'Apollon. Elle a un enfant, mais Apollon l'ignore et il la tue un jour qu'il comprend qu'elle le trompe. Et avant de mourir, cette Coronis lui dit « Je suis enceinte de toi, c'est un peu dommage ». Et donc, elle a le bon goût de mourir juste à temps pour que l'enfant soit extrait. C'est la première césarienne dans l'histoire de la médecine. Apollon extrait l'enfant du sein de Coronis. Et cet enfant est confié ensuite à un centaure pour être éduqué. Et il deviendra, alors là, j'espère que vous vous cramponnez à vos chaises, cet enfant deviendra Esculape. Coronis, la nymphe qui porte le nom de Coronis, qui nous rappelle quand même un virus qui nous pourchasse depuis 2 ans, est la mère du dieu de la médecine. Voilà, c'est magnifique quand même. Tout ça dans Ovide. Et alors, tout ça se retrouve dans notre opéra. Vous allez voir, on a dans notre opéra une nymphe qui est pourchassée à la fois par Apollon et par Neptune. Elle est aussi pourchassée par l'amour d'un monstre marin qui s'appelle Triton. Et c'est d'ailleurs magnifique parce qu'il est monstrueux et c'est le seul qui soit vraiment amoureux. Car sinon, ne pensez pas que c'est un opéra qui raconte une histoire d'amour, de rivalité amoureuse, pas du tout. Tout ça, ce sont deux dieux qui veulent régner sur le pays de Coronis. C'est une joute politique. Et pourquoi ? Parce qu'en 1706, Barcelone, alors c'est une interprétation possible, en 1706, Barcelone est occupée par la flotte britannique. Et on a sur le trône un petit-fils de Louis XIV qui est extrêmement fragilisé depuis 6 ans par la guerre de succession d'Espagne. En espagnol, corona, c'est la couronne. Et en vérité, on a une œuvre qui met en scène de façon extrêmement plaisante la façon dont le roi, d'origine française, mais éduqué à la cour de Versailles, est marié à une princesse éduquée en Savoie, à Turin. Donc avec des goûts un peu italiens. Ça, c'est pour expliquer la partie un peu italianisante de la musique. En tout cas, l'intrigue met en scène la façon dont un roi va pouvoir stabiliser son pouvoir dans un pays et récupérer une couronne. Vous le voyez, dans des circonstances qui sont extrêmement périlleuses. Donc c'est une œuvre qui est charmante au premier niveau. Vous allez le voir avec des personnages très plaisants, en particulier des personnages comiques, hein, parce qu'il y a toujours des personnages comiques dans le théâtre espagnol au XVIIe siècle. C'est une œuvre qui est très plaisante aussi parce qu'on a un chœur qui intervient régulièrement pour faire les commentaires de l'action, amener les personnages, les présenter et faire rebondir l'action. Mais c'est une œuvre qui est à clé, si vous voulez, qui peut donner lieu à une lecture politique. Et dernière chose, parce que je suis un petit peu longue, chère Iris, Iris va vous faire chanter, alors c'est important qu'on vous laisse aussi la possibilité de déployer vos organes. Dernière chose, le chant, justement. C'est une œuvre qui est très étonnante parce que, pour nous, qui sommes habitués aux traditions baroques, soit françaises, soit italiennes, alors en France, on a toutes les tessitures vocales qui s'expriment dans l'opéra baroque. En Italie, vous le savez, on développe au XVIIe siècle un goût très prononcé pour les voix hautes. Et dans certains territoires italiens, en particulier les États du pape, on ne fait chanter que des hommes dans tous les rôles et beaucoup des castrats de toutes tessitures pour incarner tous les rôles d'hommes et de femmes. En Espagne, on a le même goût pour les voix élevées à la même période, mais ce sont des femmes qui chantent. Très peu d'hommes chantent. Les hommes sont éduqués dans les chapelles pour servir ensuite les offices religieux, et on leur interdit plus ou moins l'accès aux scènes profanes, qui n'est pas digne de leur belle éducation. En revanche, les femmes, elles, on peut leur laisser les scènes profanes, c'est beaucoup moins problématique. Et donc, on a des femmes qui ont aussi une belle éducation, mais beaucoup plus à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de la corporation, qui deviennent des professionnels du théâtre et qui sont chargées d'interpréter à peu près tous les rôles. Si bien que ce soir, vous allez voir, les deux rôles de Dieu, que sont Apollon et Neptune, sont chantés par des femmes. Le rôle de Triton, le monstre amoureux, est chanté par une femme. Et au fond, ne reste dévolu à des hommes, à des ténors en l'occurrence, que les rôles de barbons, voilà, d'hommes vraiment âgés, que là on ne peut pas confier à des femmes. Mais vous avez donc ce soir cette distribution très particulière qui est propre à l'opéra baroque espagnol, qui est totalement différente de bien des opéras italiens qu'on connaît pour la même période, une distribution féminine. Voilà. Il me reste à vous dire quand même, pour vous replacer Sébastien Durón dans son temps, qu'il est né la même année que Campra, que Scarlatti et que Purcell. C'est intéressant de l'imaginer dans ce contexte-là, même si évidemment ils ne se sont jamais rencontrés. Et il commence sa carrière officielle, la partie la plus rayonnante de sa carrière officielle à Madrid, il la commence l'année où meurt Purcell à Londres en 1695. Voilà, ce sera une carrière un peu brève, hein, puisque 12 ans après, il partira en exil en France. Mais on sait que ses œuvres sont restées représentées, ont continué à être jouées après son départ. C'était un compositeur vraiment très, très important et charnière. Hein, fin du siècle d'or, début du siècle des Lumières, avec des imprégnations italiennes beaucoup plus importantes du fait qu'il fallait plaire à un souverain français et à une reine qui venait d'Italie. Voilà, je vous remercie et on va chanter avec Iris.